Alors donc je présente rapidement le thème de la soirée consacrée à la dépendance, mais cette fois-ci centrée sur le moment particulier de l'enfance. Donc c'est pour ça qu'on a deux spécialistes, deux pédiatres. Alors on va procéder de la manière suivante. Chacun va proposer une intervention de un quart d'heure, 20 minutes, qui devrait déboucher sur une discussion. En gros, les questions qu'on va se poser, c'est tout d'abord de se demander si l'enfant est véritablement dépendant et de quelle dépendance parle-t-on. On pourrait aller jusqu'à se demander pourquoi est-il dépendant, pourquoi même nous faut-il être dépendant, en vue de quoi. Et puis, celui qui est son interlocuteur privilégié, l'adulte, est lui véritablement autonome. Parce que c'est ça que ça suppose. Voilà, donc je vais commencer par laisser la parole au docteur Desportes. Ensuite, je prendrai la parole et je la ferai circuler.
C'est lourd. C'est parfait. Merci Marie pour cette introduction. Merci à Monsieur Jean-Noël Dumont de m'avoir invité, pour sa confiance. Je ne sais pas si je dois vous remercier d'être là ce soir parce que je suis un peu embarrassé d'un thème auquel j'avais jamais réfléchi avant, mais malgré tout, c'est toujours pareil, c'est quand on a un petit défi qu'on peut essayer de mettre à plat un certain nombre de choses. Donc mon approche, elle sera neurodéveloppementale au départ, dans le contenu en tout cas un peu formel des données objectives que je voudrais échanger avec vous. Mais en espérant que cette vue développementale amène des questions qui rejoignent le thème d'aujourd'hui sur pourquoi est-on dépendant ? Est-ce qu'il faut vraiment sortir de cette dépendance ? Jusqu'à quel point ? Et à quel point l'enfant est lui-même dépendant ? Donc oui, en effet, il y aura trois parties, trois points que je vais évoquer. Le premier, c'est que oui, l'enfant est dépendant, ça c'est clair. Il y a une nécessité physiologique et psychique que de prolonger cette vie aquatique des 9 mois de grossesse dans un incubateur, un cocon familial dans lequel il se passe des choses. Deuxième élément, c'est qu'on va quand même interroger cette question de dépendance, très bien, mais on ne devient pas adulte tout d'un coup, à 18 ans à la majorité, autonome, et c'est un processus, un continuum, et qui démarre en fait très précocement pour arriver à cet âge adulte. Alors les attributs de l'adulte, puisque c'est ce vers quoi on doit tendre, on pourrait dire peut-être que cette vocation du futur adulte, c'est d'être libre, responsable, mais surtout, je dirais, capable de créer des liens sociaux et être créateur de nouveautés dans le monde dans lequel il naît. C'est un peu ce que je retiendrai sur l'objectif de cette longue phase de maturation. Et puis, en troisième point, mais ce sera plutôt une question, c'est-à-dire, est-ce que ces caractéristiques propres à l'enfant et d'autre part, l'ordre d'apparition des compétences n'interroge pas ou est-ce que ça peut éclairer sur la vocation et la condition de l'adulte libre, dit autonome. Donc l'enfant, état de dépendance, oui, c'est clair, il est dépendant physiologiquement. Dans l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, les femmes se sont mises debout, le bassin s'est un peu rétréci. Bon, ça, c'est des théories un peu mécanistiques qui font que malgré tout, la position debout de l'être humain fait que les bébés sont nés prématurés parce que le bassin s'est un petit peu rétréci pour des raisons anatomiques et que un nouveau-né d'homme est prématuré. Il faut s'en occuper, il faut le nourrir. Ce nourrisson, nourri au sein, doit avoir un temps maternel uniquement pour ses dimensions purement physiques. Sur le plan psychique, cette dépendance psychique est évidente. Tous les psychanalystes peuvent en témoigner. Là, je citerai simplement Montgomery, qui est un auteur américain, qui disait dans un de ses livres « Quand on est tout petit, en fait, on comprend qu'il ne sert à rien de s'élancer du plongeoir de la piscine si personne ne vous regarde. » L'enfant qui hurle « Regarde-moi, regarde-moi » n'est pas en train de quémander de l'attention. Il plaide pour sa propre existence. Donc c'est fondamental. Pour l'enfant, d'ailleurs, douter de l'amour de ses parents, pour lui, c'est psychiquement impensable. C'est une question de survie. Donc oui, il y a une dépendance majeure. Mais cette dépendance est transitoire. L'enfant a vocation à sortir progressivement de cet état de dépendance. Et c'est d'ailleurs le drame et le caractère intolérable de cette dépendance si elle doit durer au-delà de l'enfance, pour des enfants polyhandicapés, par exemple, qui ne sortiront que partiellement de cet état de dépendance physique, voire psychique, et qui ne pourront pas prendre en main leur vie autonome, libre, quoi, telle qu'on l'a définie comme l'objectif à atteindre. Et ça, c'est d'une violence extrême, il faut quand même le rappeler. Alors oui, il est dépendant, mais c'est un processus d'autonomisation qui est en cours, et très précocement. Parce que très précocement, les données de psychologie cognitive développementale nous disent qu'il est doté de compétences innées qu'il sélectionne en interaction avec son environnement. Le nourrisson n'est pas qu'un objet de soins, il est sujet, il est acteur de son propre développement. Et je vais essayer de vous le démontrer avec quelques exemples absolument non exhaustifs. Avant, dans les théories assez classiques du développement, on était sous forme d'un nouveau-né qui était une cire vierge, une tabula rasa, qui était progressivement imprimé par les sens et par l'environnement. Et en fait, cette image-là est maintenant totalement remise en cause. Et on a plutôt un être doté de compétences innées qui le détermine dès la naissance à interagir avec un monde dont il possède, on pourrait dire, une pré-représentation. C'est un être doté des outils nécessaires pour aller à la rencontre d'un environnement physique, humain, déjà représenté avant même d'avoir été rencontré. Et ça, c'est à l'image de l'ordinateur qui est pré-câblé. Il y a les logiciels, il faut les activer. Un exemple, le bébé est un physicien naïf. Il est capable d'étonnement sur des phénomènes physiques. Et quand je parle du bébé, c'est des tout petits, c'est des nourrissons de quelques semaines, quelques mois. Ces expériences, c'était des expériences de succion. On met une tétine chez le bébé, il regarde un truc, et puis on voit que s'il y a de l'étonnement, le rythme de la succion s'accélère. C'est comme ça qu'on peut déduire que par rapport à des choses qui sont connues de lui, il y a des modifications de rythme de succion. Et en cas de nouveauté et de situation inattendue, ça se modifie. Et là, très clairement, il a été démontré qu'un nouveau-né est surpris lorsqu'il est confronté au fait qu'il y a une violation des lois de la physique. Le fait qu'un objet, une pomme, monte au lieu de descendre, ça l'interpelle et il est interrogé. Ça sous-entendrait qu'en fait, il anticipe le monde tel qu'il est et qu'il finalement, il le connaît implicitement sans avoir à apprendre et que l'expérience le conforte finalement dans ses pré-câblages, ses représentations innées qui nécessitent d'être validées par l'expérience. D'autre part, un autre point important, c'est que le bébé, je vous l'ai dit, il est acteur de son développement. On pourrait aller même plus loin. Aujourd'hui, on sait qu'il est sculpteur de son propre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, on pensait avec Piaget qu'il y avait des strates successives qui se mettaient sur une table de base qui était vide, un état mental extrêmement simple au départ. Et en fait, les théories innéistes, sélectionnistes, qui sont actuellement les plus fouillées, admettent que en fait, c'est un état initial complexe et non pas simple. Et que de cette complexité initiale, de toutes ces compétences potentielles, universelles, l'apprentissage va générer un appauvrissement. Il y a au départ de nombreuses compétences. Pour le langage, par exemple, le nourrisson, le tout petit, est capable de produire tous les phonèmes et il est quand même capable de repérer et de distinguer les phonèmes entre les différentes langues. Et puis, au fur et à mesure qu'il apprend sa langue maternelle, il va acquérir une performance dans sa langue maternelle, mais il va perdre des compétences universelles. Et au fur et à mesure, il va élaguer. Comme si, et c'était l'image je crois que Freud avait prise déjà, que le cerveau s'organise non pas comme un peintre qui ajoute de la matière, mais comme un sculpteur qui travaille par soustraction successive de cette matière à partir d'un bloc de marbre. Et bien sûr, il ne le fait pas seul. Il ne peut le faire que parce qu'il est soumis à un environnement, à une interaction, et que cette structure cérébrale, ce fonctionnement cérébral qui va en résulter, est une empreinte des interactions du sujet avec son environnement. Elle porte la mémoire de cette interaction et on voit évidemment les conséquences dans cette interaction, c'est-à-dire qu'il y a une importance majeure de la vie relationnelle sur le développement cérébral et le miroir en négatif, c'est que si on imagine bien les effets délétères et durables des carences, des maltraitances précoces sur le développement, sur l'organisation fonctionnelle et même structurelle du cerveau. On sait aujourd'hui que tous ces phénomènes des relations précoces impriment sur le plan de la synaptogénèse, des mises en place des neurones et des réseaux, définitivement, quoi, pas définitivement, heureusement, il y a une plasticité et un caractère réversible, mais qui nécessite ensuite un travail psychique important pour essayer de corriger le tir. Ce bébé est psychologue naïf. Ce qui est clair, c'est qu'il cherche de manière perpétuelle à capter le regard de son semblable. Il est clair qu'il s'intéresse beaucoup plus au visage et à tout ce qui ressemble au visage qu'aux objets. Tout ceci, c'est parfaitement démontré. Il s'intéresse plus à la voix humaine qu'à toute autre forme de son, etc. Et de manière même élective. Il s'intéresse à tout ce qui témoigne de l'activité mentale d'autrui, hein, de l'intention d'autrui. Et c'est ça qu'il fascine très précocement. Et il disposerait, on pourrait dire, de manière innée, d'une représentation d'autrui, d'une anticipation de son semblable avant même de l'avoir rencontré. On revient sur cette question aussi de cette pré-représentation qui mérite ensuite d'être validée par l'expérience. Le sourire réponse à 6 semaines, hein, quand le bébé est en interaction directe avec son parent, c'est bien là un jeu d'interaction. Et ce n'est pas l'adulte uniquement qui est là, c'est le bébé qui envoie des signaux en permanence et qui essaie de valider que l'adulte lui donne en retour que son signal est valide et qu'il il amène à quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'il fait son apprentissage. Il y a un autre point important dans l'apprentissage de l'autonomie, c'est la conscience de soi. Et on pourrait se dire, la conscience de soi, c'est un truc tellement élaboré, c'est l'apanage de l'ado, de l'adulte, certes. Sauf que les concepts de soi, le concept de soi, bon, classiquement, c'est les travaux de Zazot dans les fins des années 70, hein, c'est la fameuse épreuve de la tâche. L'enfant est devant un miroir, et il a en fait une petite tâche sur le front, et l'enfant découvre dans le miroir son visage taché, et dans ce cas-là, il porte la main à son visage, hein, pour effacer la tâche. Donc là, c'est typiquement considéré comme une preuve comportementale d'une conscience de soi, en tout cas d'un prémisse. Et cette passation donc, montre que l'enfant réfère l'image dans le miroir à son propre corps et non pas à celle d'un autre enfant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est 2 ans. Et les travaux de psychologie expérimentale, développementale plus récents ont montré qu'il y avait des prémices de cette image du corps, de cette perception de ses propres actions qui étaient dès la naissance. Philippe Rocha, qui est un chercheur développementaliste aux États-Unis, a même montré que chez le nouveau-né, il avait déjà une forme de distinction de ses propres actions par rapport à celles d'autrui. C'est-à-dire que quand le nouveau-né a un certain nombre de réflexes dits archaïques, réflexes de fouissement, c'est-à-dire que quand on stimule ici, il tourne la tête, parce que ça peut être éventuellement le sein qui pour se nourrir. Bon, ça paraît très archaïque, sauf qu'on s'aperçoit que quand c'est lui-même, par ses propres gestes, qui touche sa joue, il ne réagit pas. Alors que quand c'est autrui, c'est la main d'autrui qui vient toucher sa joue, là, il tourne la tête. Il y a un réflexe de fouissement qui n'apparaît que quand ce n'est pas sa propre main qui le touche. Le double toucher lui importe peu, ça sous-entend qu'il a conscience que c'est sa propre main qui le touche. Donc on est déjà dans une enveloppe corporelle relativement élaborée à 24 heures de vie. Un autre point qui est intéressant, c'est que dans cette conscience de soi, donc on voit qu'il était là, dont les prémices, encore une fois, hein, qu'est-ce que ça, en termes de conscience, pour le coup, et de représentation, qu'est-ce que ça signifie, j'en sais rien, mais il y a déjà des éléments intéressants observés. L'autre élément important dans la conscience, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la co-conscience. Et ça, c'est intéressant parce que, vous allez voir, c'est finalement, est-ce que le bébé à 14 mois, je pose la question, ne serait pas déjà conscient de sa propre dépendance? Alors, c'est un peu osé, mais je pars d'une expérience des bébés entre 9 et 18 mois qui ont une boîte transparente dans laquelle on a mis un objet qui les intéresse. Sauf que l'objet est très difficile à sortir. Donc, à partir de 14 mois, le bébé commence à demander de l'aide. Hein, parce qu'il voit qu'il y a des compétences de l'adulte qui sont plus meilleures que les siennes, donc il commence à demander de l'aide. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à 18 mois, il demande de l'aide, mais là, il commence même à sélectionner la personne qui peut lui donner de l'aide. Donc, il s'aperçoit qu'il préfère aller demander à quelqu'un, hein, en pointant ou en verbalisant quand il peut, quelques mots déjà. Il va formuler une demande, plus envers une personne qui se sera montrée socialement avenante et qui aura fait au préalable la démonstration qu'elle avait une plus grande capacité à résoudre le problème. Donc, grosso modo, à 18 mois, le gamin, il voit qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui est plutôt sympa et un peu moins, et pas trop conne pour pouvoir répondre à sa propre demande. Et il a 18 mois. Hein. Donc là, cette observation est intéressante parce qu'il développe finalement une conscience de soi en concert avec autrui. Hein. Ce développement est l'expression, on pourrait dire, d'une forme de proto-co-conscience de soi où l'enfant devient conscient de lui-même dans sa dépendance aux autres. Et dans cette dépendance aussi au regard à autrui. Donc c'est prémisse aussi de tout ce qui est théorie de l'esprit, c'est-à-dire que l'enfant ensuite est capable de prêter à l'autre une intention. Et là, c'est tout le champ dont sont dénués les enfants avec un autisme, hein, qui sont dénués de cette théorie de l'esprit. Alors, autre élément pour montrer cette longue marche vers l'autonomisation, c'est cet enfant un peu plus âgé cette fois qui est en quête et qui est totalement avide de liberté. Bon, il y a l'âge de la marche, c'est absolument fabuleux quand on le voit, cet enfant explorateur qui fait qu'il vaut mieux tout planquer dans le salon, sinon il y a tout qui disparaît. Il y a aussi cette toute-puissance, hein, le fait d'éprouver cette toute-puissance de l'enfant de 2-3 ans, hein, dans cette première adolescence où il y a des crises classiques, un gamin qui ne parle pas encore très bien et puis qui se met à se rouler par terre devant le feu rouge, où on voit bien que là, il teste finalement les limites de son pouvoir dans cette première forme déjà d'autonomisation. Et puis il y a l'âge du langage oral, bien sûr, hein, qui est la forme supérieure de liberté, d'expression en langage oral. Et ce qui est intéressant là aussi, en lien avec cet enfant qui est un psychologue naïf, c'est que vers 2 à 5 ans, on pourrait dire, hein, je tape un peu large, cet enfant use le langage, sauf que le langage n'est pas inhibé, on va dire, par un certain surmoi, par la raison, et que là, le langage est le reflet direct de la profondeur de l'être, je dirais. Hein, et c'est les bons mots des petits qu'on a tous eus en tant que parents. Hein, le gamin, et ça c'est un peu de la casuistique personnelle, mais un fils à 4 ans, qui était furieux et qui nous dit « Vous les parents, quand je serai grand et que j'aurai une femme, eh bien on ne viendra pas vous voir. Hein. » Ou bien la sœur de 3 ans et demi qui voit sa petite sœur nouveau-née et qui la caresse en lui disant « Ma petite morte chérie. » Hein. C'est-à-dire que là, ensuite, pour retrouver ce type de parole, il faut faire 10 ans de psychanalyse. À cet âge-là, on touche du doigt par la parole de l'enfant quelque chose de totalement libéré qui touche réellement à la question, à chaque fois, du lien et finalement de moi par rapport à l'autre, hein, par rapport à la concurrence de la petite sœur, par rapport aux parents qui ont dit non, etc. Alors bien sûr qu'il n'a pas d'esprit critique à ce niveau-là. Hein, on est infra l'usage de la raison. Mais déjà, sans esprit critique, j'ai été aussi fasciné, ça c'est pareil, c'est la casuistique personnelle, sur cet enfant de 4 à 5 ans, c'était 4 ans et demi pour nos 4, cette question de l'enfant capable de s'interroger sur des questions existentielles. À 4 ans et demi, mais c'est quoi? Et la mort, et la notion de disparition, la notion de perte, la notion de Dieu, éventuellement, quand il est baigné dans cette culture. Et ça, moi, ce qui m'a toujours interloqué, c'est que ces questionnements existentiels précèdent la raison. Ils font ça avant l'âge de raison. De même que les mots non bridés touchent la profondeur de l'être sur le plan, je dirais, de la psychanalyse. Là, on est vraiment sur moi, je trouve quelque chose d'intéressant, c'est que les questions essentielles, elles viennent avant que la raison puisse les élaborer. Alors, bien sûr que la raison, on ne va pas dire non plus qu'elle ne sert à rien, mais ça prendra du temps ensuite pour l'enfant d'acquérir cet esprit critique, cette juste distance. D'accord, très bien. Pour cette question, en effet, il va y avoir un long travail ensuite à partir de l'âge de raison sur cette maturation et cette prise de conscience de ce qu'il sait, hein, dans ce qu'on appelle la métacognition, hein, c'est-à-dire je sais ce que je sais, mais ça, la métacognition, déjà l'enfant de 5 ans qui n'est pas encore à l'école primaire, il apprend à jouer avec les rimes, il apprend à jouer avec le langage. C'est d'ailleurs un prémisse important pour l'apprentissage de la lecture. Donc déjà là, à 5 ans, en amont de l'âge de raison, il y a une forme déjà de jeu avec la langue et avec les rimes, qui est déjà une forme de prise de distance par rapport à son langage. Bien sûr que l'abstraction, ensuite, ce processus d'abstraction, qui est un processus inhibiteur, hein, il faut inhiber le concret pour aller à l'abstrait, va prendre du temps. Voilà, donc ça c'est un peu les éléments que je voulais partager sur finalement, oui, cet enfant est dépendant, mais il est dans un grand processus d'autonomisation et qu'il met en place des compétences dont certaines, peut-être les plus précoces, sont peut-être les plus essentielles. Donc ça c'est souvent en forme de question finalement que je veux terminer. Quelles leçons à tirer pour nous, adultes dits autonomes, de cet état de dépendance, de liberté conditionnelle de l'enfant? L'enfant, si on résume, il est confiant, il a une confiance indéfectible, vitale même, dans l'autre. Il n'a pas le choix, c'est une question de survie psychique. Toutes ses actions le valorisent narcissiquement grâce au regard de l'adulte qu'il fait grandir. Je me demande si, à l'âge adulte, on ne continue pas aussi à se structurer avec le regard de l'autre. C'est aussi, à mon avis, vital psychiquement, même si on n'ose pas le dire. Deuxièmement, il est téméraire. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer sans entrave, il peut exercer sa liberté totale. Pourquoi il peut le faire? Parce que son espace de liberté est borné par des interdits clairement identifiables. Puis troisièmement, il est dépendant. Ça, en effet, c'est implicite, mais il accepte la règle du jeu et il accepte finalement ce statut de liberté conditionnelle. Alors, est-ce que cette posture de confiance indéfectible d'un enfant qui a toute liberté parce qu'il connaît l'espace borné et qu'il accepte cette dépendance, est-ce qu'on doit sortir de cet état-là? C'est une question. Hein. C'est pour aller vers quoi? Là-dessus, on pourra en parler dans les discussions. Pour les chrétiens, il y a une clé de lecture qui peut nous dire peut-être qu'il ne faut pas forcément complètement en sortir. C'est dans les trois évangiles synoptiques, hein, je prends Luc 18 par exemple, où « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. Hein. » Là, il y a quelque chose que je trouve intéressant, qui est que accueillir le royaume comme un enfant, est-ce que l'enfant, qui est un être en devenir, donc il est du déjà là, pas encore accompli, est-ce qu'il n'est pas quelque part comme la levure dans la pâte, comme la graine de... est-ce qu'il n'est pas quelque part aussi l'image du royaume de Dieu, c'est-à-dire on est dans du déjà là et on n'est pas encore accompli? Je ne sais pas, c'est une question. Et donc cette question de la dépendance et de la filiation aussi, bien sûr, qui va avec cette question de Jésus sur est-ce que l'enfant est là pour humaniser l'adulte dans la représentation qu'on peut en avoir. Et puis, donc, et je termine, cette séquence développementale, hein, l'ordre d'apparition des compétences de l'enfant, c'est vrai que c'est un peu contraire au schéma habituel où on cherche à tout prix le Graal du libre-arbitre, de la raison, qui est comme une espèce de forme aboutie, au détriment de tout le reste, de notre humanisation. Et quand je vois ça, et ça fait écho aussi peut-être en gériatrie à la question de l'Alzheimer, de la perte des compétences intellectuelles, est-ce que finalement, j'interroge, la première compétence acquise qui est celle d'être capable de générer du lien autour de soi, hein, ce qui est le propre du nouveau-né, mais aussi de la personne polyhandicapée, de la personne démente, cette capacité de générer de l'attachement de ses proches, cette intelligence que Elisabeth Duckmann, qui est une femme qui a beaucoup travaillé auprès de personnes polyhandicapées, elle réfléchit sur le fait qu'est-ce que l'intelligence conative, le conatus proposé par Spinoza, ne serait pas ici quelque chose qui serait un attribut des personnes les plus vulnérables, polyhandicapées. Hein, et finalement, que le simple fait d'exister, même très vulnérable, justifierait l'être, finalement, et le respect qui en découle. Là-dessus, si c'est un attribut fondamental de l'être humain, il est intéressant parce qu'il est accessible. Et il est en plus l'essentiel sur lequel se construit le reste. Le reste, c'est-à-dire les valeurs morales. Et là, c'est pareil, un enfant déficient intellectuel, dans ma pratique, j'en vois beaucoup, les enfants déficients intellectuels, même sévères, sont tout à fait capables de savoir quand ils ont dit « oui, j'ai envie d'aimer » ou « j'ai pas envie d'aimer », je dis oui ou je dis non. On n'a pas forcément besoin d'une compétence de raisonnement et de jugement pour pouvoir appréhender cette question du lien et de « je veux faire plaisir » ou « je ne veux pas faire plaisir ». Et donc, finalement, c'est une question d'une valeur morale qui précède la question de la raison. Mais bien sûr, la raison, l'objectif, est, cette faculté à raisonner, à juger, à analyser, est essentielle. Et pour acquérir l'autonomie de la pensée, de l'action, pour prendre sa part, finalement, c'est quand même l'objectif aussi, prendre sa part comme co-créateur dans le monde dans lequel on est. Et ça, ça me faisait écho à la phrase de une des nombreuses phrases de Hannah Arendt dans La crise de la culture. Pour terminer, je la cite, « C'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice. Elle doit protéger cette nouveauté et l'introduire comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux. » Et je trouve que ça recadrait un petit peu aussi cette question de la dépendance et peut-être aussi de la question « Pourquoi doit-on passer par cet état de dépendance de l'enfant. »
Merci d'introduire mon propos. Alors, en vous écoutant, je me disais que nous, philosophes, nous sommes moins charitables avec les enfants et nous leur prêtons en fait moins de compétences. C'est vrai que pour le philosophe, l'enfance... c'est ce qu'il doit surmonter, c'est ce qu'il doit dépasser au plus vite, même s'il faut la retrouver chez Nietzsche, par exemple, chez Rilke, c'est parce qu'on l'a au départ surmonté. Et c'est souvent ce contre quoi on va philosopher. Descartes s'enferme dans son fameux poêle pour douter de tout, justement, parce qu'il a été enfant avant que d'être homme, dit-il. Ou encore, Socrate interroge ses concitoyens pour les inviter à remettre en question leur éducation athénienne. Donc, c'est vrai que spontanément, pour la philosophie, l'enfance nous la percevons comme un lieu, un moment à dépasser, dans lequel il ne faut pas s'attarder. Et ça peut sembler paradoxal, parce que l'enfant, c'est celui qui s'étonne, c'est celui qui questionne. Et on connaît cette proximité de la philosophie avec le questionnement. Alors c'est ça que je voudrais préciser déjà comme point de discussion peut-être avec vous. J'irais jusqu'à dire que son étonnement n'est pas vraiment philosophique. De même que l'expression physicien naïf, on pourrait peut-être revenir dessus. C'est un peu une contradiction. La physique, c'est la science et le contraire hein, de la naïveté. Alors, pourquoi est-ce que l'étonnement de l'enfant, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Je dirais que l'enfant, il est étonné. Et son étonnement est passif, comme vous l'avez montré d'ailleurs dans les cas de nouveau-né. Hein. Il est étonné par ce qui est différent, par ce qui est étonnant, par ce qui est extraordinaire. Et s'il vous pose des questions, c'est pour les ramener au familier, pour ramener l'étrange au familier. Alors que l'étonnement philosophique consiste à s'étonner, c'est-à-dire à provoquer un étonnement qui ne va pas de soi et qui porte sur l'évidence, qui porte précisément sur ce qui est ordinaire. Et si l'enfant, voyez, va des questions aux réponses, le philosophe va plutôt des réponses aux questions, c'est-à-dire qu'il cherche à retrouver l'inquiétude originelle qui présidait à ses réponses pour les justifier ou pour les invalider. Donc c'est pour ça que je crois que ce qui peut être intéressant dans la discussion, c'est qu'on s'entende sur ce que veut dire penser, sur ce que signifie être libre. Est-ce qu'on peut déjà trouver un sens, une pensée philosophique chez l'enfant? Ça suppose qu'on précise peut-être le sens de la philosophie. Philosopher, c'est pas simplement penser, c'est penser ses pensées, c'est critiquer ses pensées, c'est une sorte de pensée redoublée. Et c'est donc pour ça que on a tendance à nier cette capacité chez l'enfant, parce que il faut déjà avoir des pensées en soi pour les penser et être capable de les critiquer. Donc c'est vrai que les philosophes ont eu tendance à faire de l'enfance le lieu de la dépendance, d'une triple dépendance, dépendance au corps, dépendance à... L'enfance, c'est le moment où le corps l'emporte sur l'esprit, dépendance à l'égard des autres, intériorisation d'un certain nombre de représentations, de valeurs, de ce qu'on appelle des préjugés. Je cite ce mot de Nietzsche qui est assez dur: nous sommes généralement durant toute notre vie les dupes des jugements acquis étant enfant. Dépendance enfin à l'égard de soi surtout, parce que plus encore qu'à l'âge adulte, nous sommes esclaves de nos appétits, de nos caprices, et nous avons du mal à faire triompher la volonté sur le désir. Évidemment, cette difficulté, nous la retrouvons à l'âge adulte. L'enfant a des désirs, a des souhaits, mais est-ce vraiment s'agit-il vraiment de volonté ? Voilà, on peut ici en douter. Donc l'enfance, pour la philosophie, c'est une dépendance. Mais le philosophe aime s'interroger sur les raisons, toujours. Pas simplement sur les constats, il aime se poser des questions un petit peu ambitieuses, c'est parfois un risque qu'il prend, et il peut aller jusqu'à se demander, mais finalement, pourquoi sommes-nous dépendants ? Pourquoi nous faut-il être enfant ? Pourquoi faut-il passer par là ? Alors évidemment, pour répondre à cette question, je ne pourrais pas formuler des réponses définitives, parce que cette question elle est ambitieuse, hein, cette question du pourquoi, évidemment j'aurais pas de données vraiment expérimentales. Mais je crois qu'elle est légitime, c'est un réflexe de la raison hein, de se poser cette question du pourquoi, de régresser hein, dans les conditions, même si on n'a pas d'expérience possible. Alors justement, j'ai pensé en préparant cette petite présentation, j'ai pensé à Rousseau pour deux raisons. Parce que vous avez parlé la dernière fois d'autonomie, et s'il y a un penseur au XVIIIe avec Kant qui définit l'autonomie, c'est bien Rousseau, notamment dans le contrat social, hein, l'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. L'autonomie, c'est, comme vous l'avez rappelé Jean-Noël la dernière fois, c'est être capable de se donner sa propre loi et y rester fidèle. C'est le serment qu'on se fait à soi-même. Donc, dans ce cas-là, je me suis demandé qu'est-ce que Rousseau dirait de l'enfant. L'enfant, c'est celui qui est hétéronome, qui reçoit sa loi d'un autre. Est-ce que Rousseau, comme Kant, regrette d'avoir été des enfants ? Est-ce qu'il aurait souhaité être né adulte ? Comme ça m'a fait penser à cette figure des géants dans la mythologie grecque, les géants sont ces êtres, ces enfants d'Ouranos qui sont nés directement adultes, qui ne connaissent ni l'enfance ni la vieillesse, même s'ils sont mortels. Est-ce que voilà, il n'y aurait pas chez Rousseau ce fantasme ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Je me suis tournée vers l'Émile, évidemment. C'était le livre approprié. Je n'ai pas eu à chercher très longtemps pour avoir la réponse à la question, puisque vous la trouvez dans la première page de l'Émile, du livre 1. Rousseau se demande très exactement pourquoi faut-il être enfant ? Et voici ce qu'il dit. « On façonne les plantes par la culture » et les hommes par l'éducation. Si l'homme naissait grand et fort, sa taille et sa force lui seraient inutiles jusqu'à ce qu'il eût appris à s'en servir. Elle lui serait préjudiciable en empêchant les autres de songer à l'assister. Et abandonné à lui-même, il mourrait de misère avant d'avoir connu ses besoins. On se plaint de l'état de l'enfance. On ne voit pas que la race humaine eût péri si l'homme n'eût commencé par être un enfant. Voilà, la race humaine eût péri si l'homme n'eût commencé par être un enfant. Alors, il y a deux idées dans ce paragraphe de Rousseau que je vous propose de commenter. Il y a la première idée qui est de dire que l'enfance, dans ce qu'elle a de faible, de vulnérable, de dépendant, est un bienfait de la nature. Pourquoi ? Parce qu'elle sert l'un des deux instincts les plus fondamentaux, les plus importants de l'anthropologie de Rousseau, l'instinct de pitié. La race humaine eut finalement peut-être péri si elle n'avait pas eu des enfants, puisque c'est la faiblesse de l'enfant qui va exciter notre pitié naturelle, qui va tempérer l'autre instinct fondamental pour Rousseau, qui est l'amour de soi. Il faut ces deux instincts. L'amour de soi fait que je me conserve moi-même, mais cet amour de soi pourrait mettre en danger l'espèce. Aussi est-il tempéré par la pitié. Donc l'enfance, première idée ici, c'est une occasion pour nous adultes, c'est une occasion d'apprendre à nous décentrer. Et elle développe en nous, naturellement, sans effort, le sens de l'autre. Ça, c'est la première idée qu'on trouve dans ce texte. La deuxième idée, c'est celle qu'il précise à la fin du paragraphe. Il mourrait de misère hein, avant d'avoir connu ses besoins. L'enfance, c'est cet état de faiblesse qui nous permet de connaître nos besoins et qui prépare, du coup, paradoxalement, la liberté. Alors, pourquoi ? Là, je fais un petit détour par, le concept de liberté chez Rousseau. Vous avez donné une définition de la liberté, de l'autonomie chez Rousseau, la dernière fois, comme... la loi qu'on se donne à soi-même, mais il y a une autre définition de la liberté dans l'œuvre de Rousseau, liberté qu'il appelle naturelle, qui consiste à dire que l'homme libre, je cite l'Émile, l'homme libre ne veut que ce qu'il peut et fait ce qu'il lui plaît. Voilà ma maxime fondamentale. L'homme libre ne veut que ce qu'il peut. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liberté, c'est un rapport. Un rapport entre mon vouloir et mon pouvoir, entre mes forces, mes besoins et mes forces. Celui dont les forces excèdent les besoins est fort. Fut-il, nous dit Rousseau, un insecte, un ver ? Au contraire, celui dont les besoins excèdent les forces est faible. Je ne sais pas si j'ai dit correctement. Celui dont... Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liberté, en gros, c'est l'autosuffisance. En fait, tout le malheur de l'homme, c'est ce que nous décrit Rousseau dans la plupart, dans Émile, mais aussi dans le passage de l'état de nature à l'état civil, dans le développement de l'état de nature, tout le malheur de l'homme, c'est le développement de ses facultés, imagination, mémoire. Pourquoi ? Parce que cela crée un déséquilibre chez lui. Il veut plus que ce qu'il peut. Il apprend à se projeter, il apprend à se souvenir. Et très vite, le possible, voire l'impossible, prend le pas sur le réel. Et ça, c'est la catastrophe qui nous plonge dans la servitude. Rousseau nous prévient... Mesurons le rayon de notre sphère et restons au centre comme l'insecte au milieu de sa toile, nous nous suffirons toujours à nous-mêmes. Ô homme, resserre ton existence au-dedans de toi et tu ne seras plus misérable. Donc la liberté consiste à trouver un équilibre finalement entre nos forces et nos besoins, entre la réalité et nos désirs. Mais comme nous ne pouvons pas agir sur le réel et que nous pouvons agir seulement sur nos désirs, nous ne pouvons pas augmenter nos forces à l'infini, eh bien, il faut apprendre à l'enfant à rogner sur ses désirs. C'est pour ça qu'un enfant qui naîtrait, donc je reviens au premier texte que j'ai lu, un enfant qui naîtrait adulte, fort, du point de vue physique, eh bien, n'aurait pas appris à repérer ses besoins, n'aurait pas appris à les limiter. Pire, ses besoins augmenteraient. Je cite Rousseau, « Celui qui n'a qu'à vouloir pour obtenir se croit bientôt maître de l'univers. » L'enfant se mettrait à croire, cet enfant adulte hypothétique se mettrait à croire qu'il est tout-puissant. Et ce qu'il faut faire, c'est parvenir à mettre l'enfant face à ses limites. Il faut le faire buter sur ses facultés, sur ses forces, sur sa finitude. Il faut lui donner, d'une manière ou d'une autre, le sentiment de l'impossible. Je cite Rousseau, il faut qu'il sente sa faiblesse et non qu'il en souffre. Il faut qu'il dépende et non qu'il obéisse. Donc ça, c'était dans le sujet. Il faut qu'il demande et non qu'il commande. Il faut qu'il sente de bonne heure sur sa tête altière le dur joug que la nature impose à l'homme, le pesant joug de la nécessité. Alors, vous voyez, cette dépendance, c'est elle qui va lui apprendre à mesurer, à restreindre ses besoins, ses désirs, et à conquérir cette liberté ainsi définie, non pas comme autonomie, hein, mais comme rapport entre nos besoins et nos forces. Alors comment, et je terminerai là, comment lui apprendre au mieux cette dépendance ? Là, Rousseau développe une idée originale et qui est restée célèbre. Il oppose dans ce texte la dépendance des choses et celle des hommes. Je crois que vous avez évoqué cette idée lors de la dernière conférence, parlant plutôt du domaine politique. Si les hommes ont inventé la loi, c'est pour éviter d'obéir aux hommes. Mais pour obéir à un ordre des choses convenu. Eh bien, c'est la même chose. Rousseau propose ici que l'enfant sente cette nécessité, cette dépendance dans les choses, à travers les choses, et non à travers les hommes. Si vous voulez, pour éveiller ce sentiment chez votre enfant, cela ne sert à rien de vous montrer autoritaire et de lui demander d'obéir à de multiples ordres. Pourquoi ? Parce que dès que l'enfant va sentir à travers vos « je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela », va sentir que c'est vous, votre volonté, qui est en jeu, eh bien, il va chercher à la faire plier par la séduction, par le caprice, à l'usure souvent. Il va voir ce que cette volonté peut avoir d'arbitraire. Je cite Rousseau, « Il est dans la nature de l'homme d'endurer patiemment la nécessité des choses, mais non la mauvaise volonté d'autrui. » Donc les leçons données par les choses, la nécessité, les lois nécessaires sur lesquelles son action va venir se fracasser, eh bien, lui donneront beaucoup mieux le sentiment d'une nécessité inflexible dans laquelle il n'y a rien d'arbitraire. Parce que les choses sont ce qu'elles sont. Donc ce que Rousseau propose, c'est une éducation par les choses. Alors évidemment, le maître est derrière et dispose les choses indirectement. Mais il doit par là acquérir, vous voyez, le sens du possible et de l'impossible par le réel. Voilà. Donc je voulais en arriver à cette idée finalement, chez ce grand penseur de l'autonomie, eh bien, sa description de l'enfance est intéressante. Elle est bien le lieu d'une première dépendance, mais dont il ne faut pas se lamenter, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément. Et cette dépendance est d'ailleurs la meilleure des pédagogies, finalement, pour nous rendre libres. Voilà, alors je m'arrêterai sur cette conclusion. Et je vous passe tout de suite la parole, puisque je pense que vous allez pouvoir compléter. Merci. La discussion. Alors.
Alors, tout d'abord, Pierre Faudoré m'a prié de bien vouloir excuser sa défection de dernière minute, et moi je vous demanderai de bien vouloir excuser peut-être mon manque de préparation du fait de cette défection de dernière minute. Par rapport aux orateurs précédents, je pense que mon propos sera beaucoup moins je suis vraiment pas bon technique, en fait, si vous voulez. Faire deux choses en même temps, c'est toujours compliqué. Je vais essayer quand même d'être le plus clair possible. L'idée de mon propos, c'est de vous transmettre aussi mon expérience de clinicien de tous les jours, qui rencontre des enfants, qui rencontre des adolescents, et pour lesquels la problématique de l'autonomie, de la dépendance, est en permanence posée. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, et je crois qu'il faut toujours revenir à la clinique. Alors si j'avais à... J'aime bien un peu structurer. Si j'avais à mettre des gros titres à mon intervention, je commencerais d'abord par la phrase de Winnicott. Tu l'as cité d'une autre manière tout à l'heure, Vincent. Winnicott disait « Un bébé sans parents, ça n'existe pas ». Et je trouve qu'au travers de cette phrase, tout est dit. Si ce n'est pas de la dépendance, ça, on n'existe pas si les parents ne sont pas là. Dans un deuxième temps, je parlerai la chose suivante, en résumant cette phrase, qui s'attache bien, se détache bien. Vous verrez pourquoi, j'en parlerai après. Et puis enfin, pour terminer, j'espère que j'ai le temps, parce que pour terminer, j'essaierai d'apporter peut-être une vision aussi diachronique de l'évolution de la société, l'évolution de la famille, qui, je pense, a des répercussions très nettes au point de vue clinique, répercussions que nous, on commence déjà à voir dans les rencontres que l'on fait avec les enfants et les adolescents. Alors tout d'abord, un bébé sans parents, ça n'existe pas. Je vais reprendre quelques éléments de Vincent. Vincent disait tout à l'heure, effectivement, on a découvert à la moitié du XXe siècle que le bébé était un être hautement compétent, et que ses compétences lui permettaient d'interagir de manière exceptionnelle. Et cette interaction permettait de créer du lien. Donc, d'emblée, de se différencier. Donc, vous voyez, à la fois, il est dépendant, mais d'emblée, le processus d'autonomisation commence. Il va commencer dès la naissance. Et c'est toujours la question que je pose aux parents en consultation. Ils me disent, il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome. Je leur dis, mais ça commence quand l'autonomie ? Vincent l'a dit, hein, on imagine l'effort du bébé pour naître. Vous avez déjà imaginé ce qu'il faut faire ? Quoi, c'est difficile, hein, mais on s'imagine. Vous imaginez ? Le marathon, je pense que c'est rien. Hein ? Cet effort pour naître. Donc, ça commence dès le départ et toutes les compétences sont centrées sur l'interrelation, avec des interactions que nous, on observe et vis-à-vis desquelles on est parfaitement, quoi, on est très très vigilant, des interactions comportementales qu'on peut observer, on appelle ça l'accordage. Et on regarde si cet accordage fonctionne. Alors ça peut se faire de manière comportementale, mais au-delà du comportement, ça va se faire aussi au niveau émotionnel et puis même au niveau fantasmatique. C'est-à-dire qu'il va falloir replacer cette histoire de ce bébé qui est très dépendant et qui va progressivement s'autonomiser dans une histoire transgénérationnelle, où on voit que finalement on est un peu dans un relais qui se passe. Alors, par rapport à ces interactions précoces, donc, un, on les étudie. Deux, on voit bien combien, quand ces interactions précoces ne sont pas satisfaisantes, l'attachement du bébé va être insécure. Alors l'attachement, la capacité d'attachement, d'après vous, c'est quelque chose qui s'acquiert ou c'est quelque chose qui est inné ? C'est inné. Et ça a parfaitement été étudié dans les années 50 avec les théories de Bowlby, je ne sais pas si vous connaissez, puis après de Maria Ainsworth, qui l'a étudié chez l'enfant, où d'emblée, le petit être a tendance à s'attacher de manière naturelle, du fait de ses compétences sensitives, gustatives et aussi émotionnelles. Donc, attachement inné. Il y a d'autres expériences qui montrent aussi que quand cet attachement, quand l'enfant ne va pas comprendre, Vincent, tu parlais qu'il était un physicien hors pair dès le départ, il perçoit aussi les émotions de manière hors pair. L'expérience du still face, je ne sais pas si vous la connaissez, est-ce que certains d'entre vous la connaissent ? Non ? On met un bébé en face de sa mère, mais en fait, par un jeu de miroir, on va filmer à la fois le visage de la mère et le visage de l'enfant et regarder la réaction. Et on va demander à la maman de faire le still face, ce visage de marbre, de pierre, et on va regarder l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se démener pour essayer de faire réagir sa mère. Et sa mère ne réagit pas. Et à ce moment-là, progressivement, vous allez dire, faire des expériences comme ça chez le tout-petit, c'est quand même... Bon, comment ? Ouais, ça se fait pas. Hein ? Il n'y a que les psychiatres. Ce n'était pas des psychiatres. Bon, et l'enfant donc cherche l'attention de sa mère, il ne l'obtient pas. Et à ce moment-là, on voit un véritable effondrement de l'enfant. Donc on voit bien qu'au travers de ces interactions, si ça cloche, ça va être compliqué pour l'enfant. Ce qui vient à parler de qui s'attache bien se détache bien. Maintenant, on a une vision très attachementiste finalement, où on voit combien les pathologies au moment de l'adolescence sont en lien, quelquefois, avec des pathologies de l'attachement. Alors, quels sont les facteurs de pathologie de l'attachement, donc finalement, d'achoppement à une autonomisation plus tard ? Ça peut venir dans une interaction, vous êtes d'accord, quand il y a deux personnes, quand ça coince, ça peut venir de l'une, ça peut venir de l'autre, ça peut venir des deux. Donc on essaye de regarder, du côté du bébé, tu en as parlé parfaitement, la principale source d'achoppement en termes interactionnels, c'est le handicap, hein, c'est la maladie. Moi qui fais la psychologie médicale, on voit combien ça, c'est compliqué pour les parents de rentrer en interaction et de permettre à l'enfant de s'autonomiser. Deuxième élément, c'est du côté des parents. Qu'est-ce qui se passe du côté des parents en termes de perception des messages envoyés par l'enfant ? Hein, être interactionnel, vous êtes d'accord ? Bah, l'enfant va envoyer des messages, les parents vont le comprendre de manière adaptée, et à ce moment-là, ça va apaiser l'état de tension de l'enfant. S'ils ne le comprennent pas, on va rentrer dans une spirale interactionnelle très très importante. Et pour ça, il faut connaître à la fois les compétences de l'enfant et la physiologie de l'enfant. Tu parlais des réflexes tout à l'heure, automatiques. Vous connaissez le réflexe de succion, hein ? Ben, il faut bien le connaître et bien l'expliquer. Parce qu'un bébé qui pleure, qu'est-ce que pense une maman ? Comment ? Ouais, une mère, c'est avant tout une mère nourricière. Et c'est normal qu'elle pense qu'il a faim, le bébé. On va lui mettre le biberon. Qu'il ait faim ou qu'il n'ait pas faim, il va manger. Vous imaginez ? Et on peut rentrer dans une spirale interactionnelle, il va manger. S'il n'avait pas faim, il est déjà bien nourri. Et on rentre dans des spirales où finalement, la problématique de l'attachement va être attaquée et par la suite, le processus de détachement. Alors, mauvaise compréhension, alors ça peut être parce que les parents ne sont pas aussi disponibles à ça. Donc, étudier l'autonomie et le détachement de l'enfant, c'est aussi étudier les parents. Alors, c'est ce que me disent les parents quand ils arrivent en consultation. « Ah, docteur, vous allez me psychanalyser. » Non, on est là pour aider. Hein. Être parent, c'est le métier le plus compliqué du monde et c'est très compliqué de rendre un enfant autonome. Mais quelquefois, l'attachement va être en difficulté du fait de la psychopathologie parentale. Que la dépression, par exemple. La dépression, des états délirants, c'est moins grave. La dépression, on y passe souvent à côté. Et ça va créer un état d'insécurité qui va, par la suite, risquer d'entraîner des troubles du détachement. Alors, c'est l'importance de voir ça dans une perspective développementale. On voit bien, hein, comme disait Vincent tout à l'heure, on ne devient pas autonome à 18 ans. Vous savez, ils vous disent tous « Ah, quand j'aurai 18 ans !» J'adore quand les adolescents disent ça. Ah, et ben, quand on aura 18 ans, qu'est-ce que ça veut dire par ça? Puis quand vous les faites réfléchir, « Bah ouais, j'aurai 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc l'autonomie, ça commence dès le départ. Et l'autonomie, je dirais, c'est favorisé par un certain nombre de choses qui sont l'estime de soi. L'estime de soi, elle se construit comment, d'après vous? C'est pas un petit piège, hein? Vincent en a parlé tout à l'heure. Il n'a pas parlé d'estime de soi, hein, mais il a du regard de l'autre. Elle se construit au travers du regard de l'autre. Et ça, de manière permanente. Et l'estime de soi n'arrête pas de la construire. Et si cette estime de soi est défaillante, on comprend bien que c'est compliqué de se détacher. Donc on voit bien que cet état de dépendance, ce n'est pas tout noir, tout blanc, c'est plein de facteurs qui interagissent. Je regarde un petit peu ce que j'ai, où j'en suis. Alors, j'aimerais parler maintenant sur la notion d'autorité qui a été évoquée tout à l'heure et sur l'évolution de la société et de la famille. Ce que l'on voit dans les 50-60 dernières années, c'est une évolution de la famille marquée par, d'un côté, une famille avec un modèle bien clair où qui était défini par autorité-devoir, d'une certaine manière, versus la famille actuelle, marquée par deux autres concepts qui me semblent intéressants, qui sont les concepts de consensus et d'hédonisme. Hédonisme, le plaisir. Et alors là, je reviens avec une lecture développementale. Qu'est-ce qui se passe chez le bébé? Le bébé, il a des pulsions. Des pulsions qu'il va essayer d'assouvir, qui vont être pour lui source de plaisir. Et le but des parents, justement, afin qu'il arrive à les gérer lui-même, ça va être de limiter ses pulsions et ce plaisir. Vous savez, j'aime bien les formules choc. Qui aime bien, frustre bien. Et ça va permettre d'accéder à l'autonomie. Et donc cette évolution de la société où on a oublié l'autorité, on veut absolument faire consensus, est marquée aussi par un modèle où les places de chacun ne sont plus bien déterminées. Il y a un flou artistique, avec l'idée qu'on est égaux. Or, on le voit bien, au niveau développemental, un enfant n'est pas l'égal d'un adulte, du fait des capacités cognitives, du fait des capacités physiques, etc. Et donc, ça pose un sacré problème. Ça pose un sacré problème parce que l'on voit, au niveau psychopathologique, finalement, l'apparition de nouvelles pathologies. Je ne suis pas très très vieux, quoi que disent mes enfants, parce qu'ils disent... En 10, 15 ou 20 ans, on voit apparaître des pathologies. Autrefois, on avait des pathologies dues à l'excès d'autorité. Parce que l'autorité, autrefois, n'était pas totalement l'autorité. C'était l'autoritarisme. Parce que l'autorité, ça veut dire autoriser. L'autoritarisme, c'est fait ça. Donc c'est un peu différent. Donc on avait des pathologies névrotiques assez développées du fait de ça. Maintenant, le fait de fonctionner dans le plaisir immédiat, dans le plaisir qui n'est pas arrêté, crée pour nous des pathologies de la personnalité, qui sont des personnalités psychopathiques, des personnalités dépendantes. Et on le voit bien, donc vous voyez combien cette dépendance, on est dépendant au départ, on peut accéder à l'autonomie, mais aussi on peut rester dans une dépendance, je dirais psycho-affective, émotionnelle, basée sur essentiellement le plaisir. Et puis des pathologies narcissiques. Et on voit bien ça, nous on en voit de plus en plus, et c'est de plus en plus compliqué à soigner. Et vous abordiez tout à l'heure les définitions de Jean-Jacques Rousseau, où il parlait de la dépendance des choses et la dépendance des hommes. Dans le premier modèle, je dirais plus traditionnel, on voit bien combien la personne est en relation inter-individuelle. L'autre est considéré comme un individu à part entière avec qui on interagit. Dans le deuxième modèle, si vous voulez, l'individu est assez seul et l'autre est considéré comme un objet et instrumentalisé. Et donc, c'est très, très intéressant parce que ce que vous disiez tout à l'heure, la dépendance des choses, en fait, elle se maintient du fait du mode de fonctionnement de la famille. Vous voyez ? Bon, on pourra en reparler. Voilà les grandes choses que j'avais à dire. Qu'est-ce que j'étais peut-être un petit peu plus court. Alors, si, moi, je pense que par rapport à l'autonomie, l'autonomie, pour vous donner la définition tout à l'heure, j'étais tout à fait d'accord. Ce que je pense aussi par l'autonomie, c'est penser par soi-même. C'est penser de manière différente de l'autre. Et à ce moment-là, on va pouvoir rentrer en interaction pour échanger, pour réfléchir sur des représentations. Parce que si on réfléchit un petit peu, est-ce qu'il y a des vérités ? Moi, je ne connais qu'une vérité. Quelle est la seule vérité que l'on partage tous ? C'est laquelle ? Comment ? Personne ne veut répondre ? Quelle est la chose sur laquelle on est tous d'accord ? Après, le reste, vous allez voir, c'est qu'une histoire de représentation, de ce qu'on perçoit, de notre histoire émotionnelle, etc. Ouais, voilà, on va tous mourir. Le reste, sinon, vous allez me dire que cette table est rouge. Je peux vous dire qu'elle n'est pas rouge. Alors vous allez dire, c'est normal, il est psychiatre, il voit les choses. Non, mais vous voyez, on peut discuter sur tout, mais on est tous mortels. Et c'est ça qui est intéressant, l'autonomie de pensée. Et je crois que l'enjeu pour les parents, c'est d'amener l'enfant à penser de manière autonome, c'est-à-dire à faire des choix. À partir de quel âge l'enfant peut-il faire des choix ? À quel âge peut-il faire des choix ? Comment ? Très tôt, très tôt, très tôt. Parce qu'il est capable, alors pas de raisonner, mais de penser, de comprendre aussi, comme tu disais tout à l'heure, il va faire des choses, il va intégrer, etc. Et on voit bien cette construction qui va se faire au fil du temps. Voilà, je crois que j'en ai fini là, et je pense que ce qui est plus intéressant après, c'est de discuter. Il me semblait important de vous pointer quelques éléments qui me semblent fondamentaux.